Arnaldur Indridason.
Arnaldur est évidemment un policier qui travaille sur des enquêtes criminelles. S'il est devenu spécialiste en disparition, c'est simplement pour des raisons aussi personnelles, suite à la disparition de son frère dans son enfance.
Ça peut pas faire de mal.
Il s'intéresse
à la fois à la personne qui a disparu, mais il s'intéresse sans doute encore plus à ceux qui restent en fait après cette disparition. Ceux qui sont restés avec leur douleur, leur deuil.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Et toutes leurs questions sans réponse.
Ça peut pas faire de mal.
Erlendur connaissait bien l'affaire du Torskafi. Il s'intéressait aux disparitions et lisait tous les articles relatant ce type d'événement dans les journaux. Dès le début de sa carrière, il s'était plongé dans les archives de la police à la recherche d'affaires de disparitions anciennes ou récentes survenues à Reykjavik et dans les environs. À ce moment-là, il s'intéressait depuis plusieurs années déjà à ces histoires de gens perdus dans les montagnes, bien souvent surpris par le mauvais temps. Ces faits n'étaient le plus souvent pas considérés comme suspects. Il y avait toutefois une disparition bien précise qui l'obsédait. Après s'être longuement plongé dans le dossier, il était même allé explorer les lieux. Un jour de l'année 1953, une jeune fille âgée de 18 ans, élève à l'école ménagère, avait prévu de retrouver ses amis dans un bar d'étudiants rue Laikjärgata. Les trois amis ne s'étaient pas inquiétés de l'absence de la quatrième, pensant qu'elle était malade puisqu'elle n'avait pas assisté aux cours de toute la journée. L'une d'elles chercha à lui passer un coup de fil depuis le bar. Il fallut à la mère de leur amie un certain temps pour comprendre de quoi il retournait. Sa fille n'était absolument pas malade. Elle est partie à l'école ce matin, s'était-elle exclamée. La jeune fille empruntait presque tous les jours le même chemin, un trajet d'une quinzaine de minutes à pied. Peut-être n'avait-elle pas l'intention de se rendre à l'école ce matin-là. On pouvait imaginer qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un dont nul ne connaissait l'identité et que les choses avaient mal tourné, ou bien qu'elle avait décidé de mettre fin à ses jours en s'arrangeant pour que son corps ne soit jamais retrouvé. Erlendur était allé arpenter les rues que cette jeune fille avait autrefois empruntées pour se rendre à l'école. Depuis, le quartier avait changé. La disparue était fille unique. Il avait vu le jardin où elle avait joué, la porte par laquelle elle était sortie et entrée. Il ne s'était pas attardé. En réalité, il n'y était resté que quelques minutes, tout juste le temps de s'emplir les yeux de tristesse. La même incertitude régnait concernant la disparue du Torskafi. Erlendur s'était étendu comme il le faisait parfois avant de prendre son service de nuit. Avant de s'endormir, il avait longuement pensé à cette jeune fille de l'école ménagère et à la disparue du Torskafi, en se demandant si ce n'était pas sa passion pour les destins tragiques qui l'avait conduit à s'engager dans la police. Nous sommes à Reykjavik, capitale de l'Islande, en 1974. Cet enquêteur à l'âme sentimentale est une jeune recrue de la police promis à un bel avenir. Il n'est autre que le futur commissaire Erlendur, le célèbre héros de l'un des grands maîtres actuels du polar nordique, Arnaldur Indridason. Son œuvre magistrale, publiée aux éditions Métayer, compte de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier. Après La Cité des Jars en 2005 ou La Femme en Vert en 2006, l'écrivain revient dans son 16e roman sur la jeunesse de son personnage. Plus qu'un thriller, Les Nuits de Reykjavik, publié en 2015, dessine le portrait attachant d'un policier débutant, au caractère taciturne et à la personnalité complexe. À 28 ans, Erlendur apparaît comme un autodidacte féru d'histoire et un témoin privilégié des mœurs de son époque. Ce soir, découvrons cette première enquête passionnante, menée par le jeune policier alors patrouilleur de nuit, observateur à la fois discret et perspicace, obstiné et intuitif, cachant ses propres blessures. En compagnie de ses collègues, il arpente les rues de la ville à l'écoute de la détresse humaine. Extrait de la traduction d'Éric Bourri chez Métayer qui vient de paraître en collection de poche. Commençons par l'événement lugubre qui marque le début de l'intrigue. Voici la première page du roman qui s'ouvre sur un décor particulièrement sombre, les friches industrielles dans la banlieue de Reykjavik. Il vivait dans le quartier de Vasaleiti et habitait les immeubles bordant le boulevard Miklabraut jusqu'au terrain vague de Kringlumiri. La partie nord de ce périmètre était une friche envahie d'angélique et de rumex à longues feuilles. La partie sud était quant à elle une tourbière encore toute lacérée d'entailles, où les gens de Reykjavik avaient extrait des tonnes de tourbe pour se chauffer pendant la Grande Guerre. À la fin du conflit, avec la reprise des importations de charbon et de pétrole, on avait cessé de se chauffer à la tourbe. Les fosses, désormais emplies d'eau brunâtre, étaient restées en l'état pendant longtemps. Quand la ville s'était étendue vers l'est, au cours des années 60 et 70, ces anciennes tourbières étaient devenues le terrain de jeu des enfants. Les trois garçons venaient de fabriquer un radeau tout neuf avec des planches glanées sur un chantier qu'ils avaient soigneusement cloué. Ils se propulsaient grâce à de longs bâtons qu'ils enfonçaient dans l'eau trouble, jamais bien profonde. Satisfaits de ce nouveau radeau qui voguait joliment, ils avaient effectué quelques allers-retours sur la partie la plus profonde. La circulation ronronnait sur le boulevard Miklabraut, au nord de l'ancienne tourbière, dont la limite sud était traversée par des canalisations d'eau chaude qui remontaient vers les grands réservoirs posés au sommet de la colline d'Oskjulid. Cette zone déserte aux abords du pipeline constituait pour eux un autre terrain de jeu où ils trouvaient parfois des petites balles dures de la taille d'un œuf. Cet endroit, baptisé Golfskaladjorn, entre la colline et la tourbière, avait autrefois été le golfe de Reykjavik. Ils naviguaient à belle allure tout en parlant des balles de golf qu'ils trouvaient régulièrement à côté du pipeline quand un des côtés avait plongé sous la surface. Le radeau s'était soulevé puis immobilisé. Ils n'avaient pas tardé à y remédier en se mettant de l'autre côté de l'embarcation qui s'était peu à peu redressée tout en restant partiellement immergée. Ils ne voyaient pas l'objet qu'ils venaient de heurter. Ce n'était pas la première fois qu'ils trouvaient des choses dont les gens s'étaient débarrassés. On voyait même quelque part un vieux vélo affleuré à la surface. Certaines des trouvailles qu'ils y avaient faites, comme ce plastique isolant, leur avaient servi pour construire leur radeau. Mais ce qu'ils venaient de toucher était plus lourd, et ils étaient certains que l'objet s'était accroché à l'un des clous de leur embarcation. Ils avaient dû pousser de toute leur force sur leur bâton pour remettre le radeau en mouvement. L'objet les avait suivis sur quelques mètres avant de se détacher. Le côté immergé de l'embarcation s'était alors soulevé. Ils avaient vacillé un moment, puis étaient parvenus à rétablir l'équilibre, soulagés, et avaient longuement scruté ce qui affleurait à la surface. « Qu'est-ce que c'est ?» avait interrogé l'un d'eux en le tapotant du bout de son bâton. « Un sac ?» avait suggéré le deuxième. « Non, c'est un anorak », avait dit le troisième. Le premier continuait à piquer l'objet qui avait bougé avant de s'enfoncer à nouveau sous l'eau boueuse, puis ils étaient parvenus à le faire remonter. Peu à peu, il s'était retourné et l'anorak vert avait dévoilé le visage exsangue d'un homme aux cheveux gris, hirsute. Jamais il n'avait vu une chose aussi affreuse. L'un d'eux avait violemment sursauté et poussé un cri. Il était tombé à la renverse, déséquilibrant le radeau. Tous trois s'étaient retrouvés à l'eau en un clin d'œil, puis avaient regagné la rive en hurlant. Ils étaient restés un instant à trembler sur le bord, le regard rivé sur cet anorak vert et ce visage flottant sur la mare. Puis ils avaient pris leurs jambes à leur cou pour fuir la tourbière.
Est-ce que c'est réellement quelque chose qui existe en Islande, ces blizzards-là qui se lèvent d'un coup et dans lesquels des gens se perdent ?
Arnaldur Indridason.
L'Islande, c'est un pays où il est très difficile de vivre. C'était encore plus vrai il y a 100 ou 200 ans, à une époque où les voyages en Islande, le fait de voyager, était toujours périlleux. Donc il arrivait souvent que des gens qui voulaient rejoindre, enfin passer d'un fjord à l'autre pour aller d'une ferme à l'autre, se perdaient tout simplement parce que une tempête subite s'abattait et qui durait pendant des heures. Puis le froid glacial s'abattait et tuait donc un certain nombre de ces personnes qui s'étaient perdues. Et il arrivait très souvent qu'on ne les retrouvait pas, qu'on les retrouvait quelquefois après un an, ou après 10 ans, ou après 40 ans.
Découvrons à présent le tempérament tenace du jeune Erlendur. Le voici en pleine action au cours d'une patrouille de nuit. Il est accompagné par deux stagiaires d'été du nom de Gardar et Martin. Il est 3h du matin, les rues de la ville sont désertes. Nous sommes en 1974, c'est une autre époque. Essayons d'imaginer un monde sans téléphone portable, sans internet, sans police scientifique. Les vies privées ne s'affichent pas encore et les violences sociales, conjugales, restent confinées sous les apparences. Ils sonnèrent à la porte. L'altercation était des plus discrètes. Tout semblait tranquille dans la maison. Leur collègue du central avait précisé par radio qu'un voisin avait appelé pour signaler une dispute et des cris. Ils frappèrent, sonnèrent une seconde fois et se consultèrent. Erlendur voulait enfoncer la porte. Les étudiants en droit répondirent qu'il n'en était pas question, même si le maître des lieux ne réagissait pas. Ils continuaient de discuter quand un quadragénaire vêtu d'une chemise blanche ouvrit tout à coup, les mains dans les poches, le pantalon débraillé et les bretelles retombant sur les hanches. « C'est quoi ce vacarme ?» interrogea-t-il en les regardant à tour de rôle, étonné de cette visite. Il ne sentait pas l'alcool et apparemment il ne l'avait pas réveillé. « Nous avons reçu une plainte pour tapage nocturne, » déclara Gardar. « Tapage nocturne ?» répéta l'homme en fronçant les sourcils. « Il n'y a aucun bruit chez moi. Qui donc vous a appelé ? Quelqu'un s'est plaint à la police ?»« Ça ne vous dérange pas si nous entrons un instant ?» éluda Erlendur. « Ici, chez moi ?» Les gars, on vous a fait une plaisanterie et vous avez foncé dans le panneau. Votre femme est-elle à la maison ? Poursuivit Erlendur. Mon épouse, elle n'est pas là. Elle est partie dans notre chalet d'été avec ses copines. Je ne comprends pas ce que... Il doit y avoir un malentendu. Le central nous a peut-être donné une mauvaise adresse, suggéra Gardar en regardant ses collègues. On n'a qu'à vérifier auprès du commissariat. Oui, veuillez nous excuser, conclut Martin. Pas de problème, les gars. Désolé pour ce malentendu. Je suis seul chez moi. Allez, bon courage. Gardar et Martin retournèrent à la voiture. Erlendur les suivit. Ils s'installèrent dans le véhicule. Martin se mit à la radio et le commissariat lui confirma qu'ils étaient à la bonne adresse. « En tout cas, il ne se passe rien ici, » assura Gardar. « Attendez-moi un instant, » pria Erlendur en ouvrant sa portière. « Il y a un truc qui cloche là-dedans. »« Qu'est-ce que tu fais, s'enquit Martin ?» Erlendur retourna vers la maison et frappa une nouvelle fois. Quelques instants plus tard, le maître des lieux reparut. « Il y a un problème ?»« Je peux utiliser vos toilettes, » demanda Erlendur. « Mes toilettes ? Oui, je n'en ai pas pour longtemps. »« Et là, ça... je ne peux pas. Montrez-moi vos mains. »« Hein ? Mes mains ? Oui, vos mains, » confirma Erlendur, qui, poussant la porte d'un coup sec, le força à reculer dans la maison. Il se précipita à l'intérieur, jeta un coup d'œil rapide dans la cuisine, ouvrit la porte des toilettes et courut jusqu'au couloir des chambres qu'il inspecta brièvement, en appelant pour vérifier s'il n'y avait personne. » Immobile dans l'entrée, l'homme protesta vivement face à ses méthodes. Erlendur le rejoignit rapidement et le contourna pour se rendre dans le salon où il découvrit une femme allongée sur le sol. La pièce était sans dessus-dessous. Chaises renversées, lampes et guéridons basculés, rideaux arrachés. Il courut vers la femme et s'agenouillant constata qu'elle était inconsciente. Elle avait un œil au beurre noir, les lèvres tuméfiées et une blessure à la tête. Erlendur pensa qu'elle avait heurté la table et que le choc l'avait assommée. Sa jupe remontée sur les hanches dévoilait un gros hématome à la cuisse. Apparemment, elle était battue régulièrement. « Appelez une ambulance !» cria-t-il à Gardar et Martin qui venaient d'arriver à la porte du salon. « Combien de temps l'avez-vous laissée dans cet état ? » hurla-t-il à l'homme, toujours immobile dans l'entrée, les bras ballants. « Elle est morte ?»« Pas sûr, » répondit Erlendur sans oser la déplacer. Elle souffrait apparemment d'un traumatisme crânien et les ambulanciers sauraient comment la transporter. Il alla chercher un rideau déchiré pour la couvrir et pria Martin de menotter le mari, puis de l'emmener dans le fourgon. L'homme avait sorti les mains de ses poches. Elles étaient couvertes d'égratignures. « Vous avez des enfants, s'enquit Erlendur ? Deux fils, ils sont à la campagne, dans l'Est. Tant mieux pour eux, » observa Erlendur. « Je ne voulais pas faire ça. » « D'ailleurs, j'allais vous appeler. Elle est tombée là, sur la table, et elle ne répondait plus. Alors j'ai pensé que peut-être... » Ses paroles se tarirent. La femme poussa un gémissement. « Vous m'entendez ?» demanda Erlendur sans obtenir de réponse. Les hurlements des sirènes se rapprochaient. Une ambulance s'engagea dans la rue et se gara devant la maison, suivie par une voiture de police. Réveillés par le bruit, les voisins s'étaient mis aux fenêtres. Ils regardèrent les ambulanciers emmener la femme sur une civière et le fourgon de police quitter le parking, le mari à son bord. Le calme revint bientôt dans la rue et tous retournèrent se coucher, étonnés de ces perturbations nocturnes. To get what I'm missing.
Should I hurry? Put a train down and miss it. It's too late, of course. But if I felt a remorse, would I have to pay? Put a train down and miss it.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Restons en compagnie d'Erlène Dour. La nuit touche à sa fin. Voici les réflexions qui l'assaillent à l'aube alors qu'il quitte son poste. Aucun autre événement ne marqua leur patrouille. Alors qu'il s'apprêta à rentrer chez lui après sa nuit de travail, Erlène Dour aperçut le mari violent qui attendait un taxi devant le commissariat. On l'avait relâché après interrogatoire. L'affaire était considérée comme classée. Il était libre d'aller et venir à sa guise. La vie de son épouse n'était pas en danger. Elle quitterait l'hôpital d'ici quelques jours et retournerait probablement vivre avec lui, faute de pouvoir aller ailleurs. Les femmes battues ne trouvaient ni soutien, ni secours. Erlène Dour leva les yeux sur le bâtiment moderne du commissariat et descendit vers la mer, rue Skulagata. Il regarda le mont Essia et les montagnes qui s'étendaient vers l'est. Le soleil était déjà visible au-dessus des sommets. En rentrant chez lui, il repensa au clochard qu'on avait trouvé dans les tourbières. Il ne parvenait pas à le chasser de son esprit. Peut-être parce que cet homme ne lui était pas tout à fait inconnu. Il s'appelait Hannibal, et Erlène Dour avait eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises en ville. Ce jour-là, il avait entendu l'information donnée par le central sur sa radio alors qu'il patrouillait, et il était arrivé le premier sur les lieux. Il revoyait cet anorak vert flottant à la surface de la mare, et ses trois garçons avec leur radeau. Erlène Dour savait qu'au cours de l'année écoulée depuis la noyade, la police n'avait découvert aucun élément suspect. Il savait également qu'elle n'avait pas déployé un zèle excessif pour enquêter sur ce décès. Elle avait d'autres chats à fouetter et l'affaire semblait évidente. Tout indiquait que la noyade était accidentelle. Erlène Dour se demandait si ce manque de zèle de ses collègues tenait au statut social de la victime. S'il ne considérait pas en fin de compte qu'il ne s'était rien passé de notable, si ce n'est que depuis, il y avait un clochard de moins dans les rues. C'est peut-être aussi simple que ça. Peut-être pas. Peu avant son décès, l'homme avait dit à Erlène Dour que quelqu'un avait tenté d'incendier la cave dans laquelle il habitait. Personne ne l'avait cru, y compris Erlène Dour. Ça l'obsédait de ne pas l'avoir écouté et de lui avoir manifesté la même indifférence que les autres. Quelques jours plus tard, un soir où il n'était pas en service, Erlène Dour alla se promener vers les tourbières. Il regarda vers le pipeline de la compagnie géothermique de Reykjavik. L'enquête avait révélé qu'Hannibal s'était trouvé un nouveau domicile, si on peut l'appeler ainsi. L'été de sa mort, on l'avait en effet expulsé de la cave qu'il occupait à la suite d'un incendie. Le propriétaire avait affirmé que le feu avait pris par sa faute, mais Hannibal avait toujours refusé d'endosser cette responsabilité et s'était retrouvé à la rue. Son calvaire avait pris fin lorsqu'il avait déniché un refuge dans le caisson en ciment qui protégeait le pipeline d'eau chaude. Un bloc de béton s'était détaché sur un côté de la maçonnerie, ménageant une brèche suffisamment large pour qu'un homme puisse se glisser à l'intérieur et se blottir contre la canalisation, source de chaleur. Cet endroit, exigu et sombre comme un cercueil, avait été le dernier domicile d'Hannibal, avant qu'on ne le retrouve noyé dans les tourbières. Il avait vécu là avec quelques animaux qui s'étaient rassemblés autour de lui, comme l'avaient fait autrefois les oiseaux autour de Saint-François d'Assise. Pourquoi était-il hanté par ce vagabond qu'il avait en fin de compte rarement croisé? Était-ce parce qu'il l'avait repêché et que cette image l'avait si fortement marqué? Était-ce le remords qui poussait ainsi Erlène Dour à vouloir exhumer cette histoire? Aurait-il pu faire plus pour cet homme, même s'il refusait toute forme d'aide et de compassion? Personne ne s'était alarmé de voir un vagabond au bout du rouleau rendre son dernier souffle. Finalement, ça faisait un clochard de moins en ville. Seul Erlendur s'intéressait au sort de cet homme, mort noyé comme un chien errant. Quelque chose l'obsédait dans le destin poignant de cet homme. Certes, il s'interrogeait sur sa fin tragique, mais aussi sur cette force qui l'avait irrémédiablement poussé à se placer en retrait de la société humaine. D'où provenait ce besoin? Où plongeait-il ses racines? Erlendur était saisi par cette solitude et cette détresse. Mais il y avait quelque chose dans son attitude, quelque chose dans son existence immobile et figée qui le fascinait également. Cette manière dont il opposait une résistance à la vie et l'entêtement qu'il mettait à refuser toute assistance. D'une certaine manière, la vie d'Erlendur était aussi à l'arrêt. Il pensa aux nuits de Reykjavik, si étrangement limpides, si étrangement claires, si étrangement sombres et glaciales. Nuit après nuit, il sillonnait la ville à bord d'une voiture de police et voyait ce qui était caché aux autres. Il voyait ceux que la nuit agitait et attirait, ceux qu'elle blessait et terrifiait. Lui-même n'était pas un oiseau nocturne. Il lui avait fallu du temps pour consentir à quitter le jour et à entrer dans la nuit. Mais maintenant, il avait franchi cette frontière. Il ne s'en trouvait pas plus mal. C'était plutôt la nuit que la ville qui lui plaisait. Quand dans les rues enfin désertes et silencieuses, on n'entendait plus que le vent et le moteur de la voiture. Passionné par les affaires non élucidées, Erlendur ressasse le souvenir d'un autre cas mystérieux, la disparue de Torskafi. Retrouvons le jeune policier toujours en compagnie des deux stagiaires lors d'une nouvelle patrouille nocturne. Ils entendirent sur leur radio qu'une jeune fille avait disparu. Elle avait quitté son domicile 3 jours plus tôt. Depuis, on était sans nouvelles. Et cette femme de Torskafi, vous vous en souvenez ? Poursuivit Gardar. On l'a jamais retrouvée. C'est pas si vieux. Oui. Elle était sortie dans un bar avec des collègues et n'est jamais rentrée chez elle, c'est ça ? Interrogea Martel. Enfin, disons plutôt qu'elle avait prévu de rentrer à pied. On se demande ce qu'elle est devenue, dit Martel. Elle ne s'est pas tout simplement jetée dans le port, suggéra Gardar. Erlendur, c'est à l'époque où ton clochard s'est noyé, non ? Demanda Martin. Mon clochard. C'était la première fois qu'il entendait cette expression, même s'il lui était arrivé de parler du noyé à ses coéquipiers en déplorant que l'enquête ait été bâclée par la police. Tu as raison, c'était la même époque. Les recherches étaient demeurées infructueuses. La jeune femme avait disparu du Toscafi comme si la terre l'avait avalée. Ses amis avaient évoqué une dépression, bien qu'elle ne leur en ait jamais parlé. Elles avaient également suggéré qu'elle n'était pas heureuse en ménage. Son mari s'en était résolument défendu tout en reconnaissant qu'elle souffrait de sautes d'humeur et peut-être de dépression. Il avait signalé sa disparition tôt le lundi matin. À ce moment-là, il était sans nouvelles d'elle depuis le samedi soir où elle était sortie s'amuser avec ses collègues de l'agence immobilière. Constatant qu'elle n'était pas rentrée le dimanche matin, il avait téléphoné à plusieurs d'entre eux sans résultat. Certains ne se rappelaient même pas comment la soirée s'était terminée. L'enquête n'avait révélé aucun élément susceptible d'expliquer ce qui lui était arrivé. Il était toutefois apparu qu'elle avait trompé son mari 3 ans auparavant. Ce dernier avait d'abord pensé qu'elle avait récidivé. Quand on avait interrogé l'ancien amant, ce dernier avait catégoriquement nié l'avoir revue. Une des hypothèses avancées suggérait qu'elle était partie avec un autre homme, l'avait suivie chez lui et qu'il s'était produit là-bas quelque chose qui avait entraîné sa disparition. L'homme avec lequel on l'avait aperçu dans le bar ne s'était jamais manifesté et la police ne l'avait jamais retrouvé. Cette disparition n'avait pas été considérée comme suspecte. On avait supposé que cette femme avait mis fin à ses jours, même si on ignorait la raison de son geste. Un détail avait intrigué Erlendur à la lecture des rapports d'enquête, un soir où il n'avait pas envie de rentrer chez lui. Parmi les personnes interrogées, 2 d'entre elles avaient précisé qu'elle adorait les colifichets et les bijoux. Tourmenté par le souvenir d'Hannibal, ce clochard noyé dans la tourbière, Erlendur poursuit son enquête de manière non officielle. Il tente d'en savoir plus auprès d'une femme qui a été la dernière compagne de la victime. Le foyer ressemblait à n'importe quelle maison du quartier de Tingholt, si ce n'est qu'elle accueillait des femmes alcooliques et clochardes qui n'avaient aucun autre endroit où aller. On leur offrait un lit et un repas chaud. une femme petite et maigre comme un clou, se présenta à l'accueil. Le teint mat et le visage flétri, Erlendur estimait qu'elle devait friser la cinquantaine. « Vous souhaitiez me voir ?» dit-elle à Erlendur. « Vous êtes Touri ?» Elle-même. « Et vous, qui êtes-vous » Il se présenta et lui demanda s'il pouvait discuter un moment en privé. « Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Il s'agit de quelqu'un que j'ai connu et que vous connaissez également, si je ne me trompe. Je voudrais vous poser des questions au sujet d'Hannibal. » commença Erlendur. Touri le dévisagea ahuri. « Hannibal ? Que voulez-vous que je vous dise ? Vous le connaissiez bien ?»« Plutôt, » répondit-elle après une brève hésitation. « Pourquoi vous m'interrogez à son sujet ? Vous savez qu'il est mort, n'est-ce pas ? Je suis au courant. Je sais également comment il est mort et je me demandais si vous ne pourriez pas m'en dire un peu plus. Sur ce qui lui est arrivé ? Il s'est noyé. Vous avez été étonné en l'apprenant ? Ça vous a surprise ? « Pas spécialement, » répondit Touri après un instant de réflexion. « Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis juste dit que son heure était venue. »« Vous saviez qu'il avait trouvé refuge dans le caisson en béton du pipeline ?»« Oui, je suis allé le voir là-bas, un peu avant qu'on le retrouve dans l'étang. »« Je voulais qu'il arrête de dormir dehors et qu'il vienne avec moi, mais il voulait réfléchir. »« Il était parfois sacrément compliqué. »« Il ne supportait pas la manière dont je... »« Enfin, il ne supportait pas certaines choses chez moi. »« Il ne supportait pas la manière dont vous... » relança Erlendur, dont je m'arrangeais pour avoir de l'alcool ou des cachets. C'est-à-dire ? Il ne supportait pas que je fasse commerce de mon corps, s'emporta Touri. C'est vrai, ça arrivait. Vous pouvez penser ce que vous voulez, je me fiche de votre opinion. Je ne suis pas là pour vous juger, assura Erlendur. Que vous dites ? Vous étiez bons amis ? Hannibal et moi, on a fait les 400 coups ensemble, répondit Touri. Puis j'ai arrêté de boire et j'ai tourné le dos à tout ça. À cette époque, je le voyais très rarement. Ensuite, j'ai rechuté. Vous avez vécu ensemble ? On a passé une année entière dans une chambre minable, on campait ici et là. Hannibal était un solitaire, mais c'était un brave homme. Il avait un bon fond. Il m'a toujours bien traité. Ce qui lui est arrivé est terrible. Vous savez, si quelqu'un lui voulait du mal, des gens avec qui il se serait disputé, il ne craignait ni ne haïssait personne, répondit vivement Touri. Elle s'accorda un moment de réflexion et ajouta « À part peut-être les deux frères. » Les frères de la maison voisine ? C'est leur faute si Hannibal a été expulsé de sa cave. Ils l'ont accusé d'y avoir mis le feu, mais ce sont eux les coupables. Et ils ont fait ça pour se débarrasser de lui. Le propriétaire de la cave n'a pas voulu entendre sa version des faits et l'a mis à la porte. C'est pour ça qu'il est parti vivre dans le caisson du pipeline. Hannibal les a revus après l'incendie ? J'en ai aucune idée. En tout cas, il lui faisait peur. Il les décrivait comme des malfaiteurs qui recevaient souvent de la visite la nuit. Bon, est-ce qu'on pourrait écourter cette conversation ? Bien sûr. Merci de votre aide. Au fait, quelques jours après la découverte de son corps, j'ai voulu aller récupérer ses affaires dans son abri, ajouta Touri. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Il n'était pas du genre à amasser. Sa petite valise qui contenait quelques livres et des choses trouvées par-ci par-là avait disparu. Ses effets personnels ont sans doute été remis à la famille. Je voulais garder un souvenir de lui, reprit Touri. Une chose qui... Enfin, il n'y avait plus rien à part cette boucle d'oreille. Une boucle d'oreille ? Oui, sous la canalisation. Vous avez trouvé une boucle d'oreille ? Je viens de vous le dire. Quel genre ? Elle semblait assez neuve, grande et jolie en or. J'imagine qu'Hannibal l'avait trouvée en ville, puis perdue dans l'obscurité de son refuge. En rentrant chez lui, Erlendur continuait de réfléchir à cette boucle d'oreille et à la manière dont elle avait pu atterrir dans le refuge d'Hannibal sans parvenir à une conclusion. La conversation qu'il venait d'avoir avec Touri lui occupait ainsi l'esprit. Quelque chose l'avait troublé, bien qu'il fût incapable de dire quoi. Plongé dans ses pensées, il descendit la rue Laugavegur en vitesse sans se soucier des devantures de magasin, jusqu'au moment où il passa devant une grande bijouterie. Il y jeta un coup d'œil rapide et machinal, puis tout à coup... s'arrêta pour observer les bijoux exposés. Il s'attarda longuement devant ces merveilles et comprit peu à peu ce qui le troublait ainsi. « Les colifichets et les bijoux », murmura-t-il. « Est-ce possible ?» Il continua de scruter la devanture. Debout face à cette vitrine qui brillait de mille feux, il se rappela une remarque qu'il avait lue dans les rapports d'enquête concernant la disparue du Turskafi. Les procès-verbaux précisaient qu'elle portait toutes sortes de bagues, de bracelets, de colliers et de boucles d'oreilles. Il continua de fixer la vitrine en se demandant si Hannibal pouvait avoir été impliqué dans la disparition de cette femme, et si oui, de quelle manière. Erlendur avait posé une dernière question à Toury avant de la quitter sur les marches du refuge. Comment une femme perd-elle une boucle d'oreille? C'était la seule fois qu'il l'avait vue sourire. Elle avait répondu qu'il suffit de pas grand-chose. Le bijou se refermait par un clip qui se détachait très facilement. On peut imaginer que la personne qui a perdu celle-là s'est battue avec Hannibal? J'en doute fort, avait-elle répondu. Hannibal ne se serait jamais bagarré avec une femme. Je le connaissais depuis des années. Jamais il n'aurait levé la main sur une femme. Pour Erlendur, le plus probable était que la boucle d'oreille n'avait aucun rapport avec Hannibal et qu'elle se soit trouvée dans le caisson par le plus grand des hasards. Cela dit, c'était la seule chose qui n'y avait pas sa place. La seule chose qui soit arrivée là, sans qu'on puisse l'expliquer. Le seul objet brillant dans le refuge crasseux du clochard. Sensible au destin de ses contemporains, Erlendur découvre quelque temps plus tard le passé douloureux d'Hannibal. C'est une autre femme, Rebecca, la sœur d'Hannibal, qui lui raconte l'accident fatal qui a brisé la vie de son frère, au point qu'il décide de devenir clochard et de s'isoler de la société. Alors, jeune marié, Hannibal emprunte une voiture pour faire une promenade au port avec sa femme, Elena. Il invite sa jeune sœur à se joindre à eux, mais la balade printanière tourne à la tragédie. Il s'engagea sur la jetée trop vite et freina dès qu'il s'en rendit compte. Mais la voiture dérapa sur le revêtement glissant. Hannibal perdit le contrôle et en un clin d'œil, ils tombèrent dans le port. Le véhicule coula immédiatement. L'eau glaciale s'engouffra par les vitres avant grandes ouvertes et ne tarda pas à envahir l'habitacle. Quand le véhicule toucha le fond, Hannibal vit sa sœur inconsciente flotter à l'arrière. Projetée sur le pare-brise, Elena était blessée à la tête. Hannibal disposait de très peu de temps. Il comprit vite qu'il ne pourrait pas les secourir en même temps. L'une d'elles devrait attendre. Il perdut de précieuses secondes à évaluer l'affreuse situation. Hannibal décida finalement d'attraper sa sœur et de l'extraire par la vitre latérale en la tirant derrière lui. La robe d'été de Rebecca s'accrocha à la porte. Il tira jusqu'à ce qu'elle cède et se déchire, perdant ainsi d'autres précieuses secondes. En arrivant à la surface, il suffoqua et personne n'était là pour le secourir. Il tenait le corps inerte de Rebecca, appelait à l'aide, tout en nageant, désespéré, vers un des piliers de la jetée où pendait un cordage, qu'il passa sous les aisselles de sa sœur afin de lui maintenir la tête hors de l'eau. Il vérifia qu'elle était vivante, prit une grande inspiration et replongea vers l'épave. Il nagea de toutes ses forces jusqu'à la vitre latérale et vit Elena. La main qui s'était désespérément tendue vers lui flottait mollement. Il l'attrapa et la tira, mais Elena demeurait prisonnière. Il la saisit par les épaules et, dans un effort surhumain, parvint à dégager ses jambes. Il pouvait maintenant la pousser vers l'extérieur par la vitre ouverte. Épuisé, blessé à la tête et perdant du sang, il atteignit la surface, commença à suffoquer, à tousser, tout en maintenant la tête d'Elena hors de l'eau et nageant jusqu'au pilier où était Rebecca. Fou de terreur, il appela à l'aide, hurla le nom d'Elena qu'il tenait contre lui, hurla celui de Rebecca, hurla de désespoir à l'attention de Dieu pour qu'il lui envoie de l'aide, mais personne n'entendit ses cris. Il prit Elena sur ses épaules et la hissa sur la jetée. Tremblant de tout son corps, il allongea sa femme pour tenter de vider l'eau qu'elle avait dans les poumons. Il pressait encore et encore sur sa poitrine, hurlait son prénom, lui parlait, lui disait que tout irait bien, lui criait de se réveiller. Elle recracha beaucoup d'eau, mais il savait qu'il était arrivé trop tard. Il savait qu'il ne pouvait plus la sauver. Il ne devait pas non plus laisser sa petite sœur trop longtemps dans l'eau. Rebecca reprit peu à peu conscience alors qu'il la hissait à son tour sur la jetée. Puis il l'allongea à côté d'Elena. Il fit une nouvelle tentative pour ranimer sa femme. Quand il comprit que tout était perdu, il se coucha à côté d'elle, épuisé, le visage contre sa poitrine inerte, et se mit à pleurer. Erlendur comprit alors pourquoi Hannibal lui avait dit un soir, tandis que le policier l'emmenait passer la nuit au commissariat, « Que je vive ou que je meure n'a aucune importance. »
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
If travel is searching and home what's been found, I'm not stopping.
Prenons le cours des investigations. La découverte inattendue de la boucle d'oreille va bientôt accélérer l'enquête d'Erlendur. Résumons les faits et découvrons le dénouement de l'intrigue. Le jeune policier qui réalise sa première enquête à l'insu de sa hiérarchie interroge tous les protagonistes de l'affaire. Les deux frères, ex-voisins d'Hannibal, sont disculpés de l'incendie de la cave où logeait le clochard. Par ailleurs, Erlendur rend visite au bijoutier de la ville et finit par découvrir le nom de la propriétaire de la boucle d'oreille. Il s'agit bien d'Odny, la disparue du Torskafi, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le policier apprend que la jeune femme était battue par son mari. Celui-ci nie les faits et rappelle qu'il a un alibi. Le soir de la disparition de sa femme, il s'est rendu à une réunion du Lions Club. Pour Erlendur, tout mène à croire que Hannibal et Odny ont été les victimes d'un même tueur. Ses soupçons le conduisent vers un autre clochard. Saisi par une étrange intuition, Erlendur se rend pour la seconde fois dans le caisson du pipeline. Cette fois, il s'était rendu au pipeline équipé d'une petite pelle et d'une puissante lampe, propriété de la police. Il avait emprunté l'outil au collègue du dessus, chargé de l'entretien du jardin. Erlendur s'approcha du trou au fond duquel Hannibal avait trouvé son ultime refuge. Le ciel était couvert et des trombes d'eau s'abattaient sur le massif du Blafjol. Les lieux étaient totalement déserts. Il alluma la lampe et pénétra par la brèche. Thury avait trouvé la boucle d'oreille sous la canalisation, juste à gauche de l'ouverture. Il commença donc à chercher à cet endroit. Le sol sous les tuyaux était constitué d'un mélange de terre et de cailloux. La pelle y pénétrait sans peine. Il progressa ainsi mètre par mètre, agenouillé, le dos courbé, la lanterne posée sur les canalisations et la pelle devant lui. Il nettoyait régulièrement l'outil en le frappant sur les tuyaux, puis le replongeait aussitôt dans la terre, creusant trou après trou sans rien trouver. Oppressé, il décida de sortir au grand air pour s'accorder une pause. Il s'étira longuement, puis, assis dans l'herbe, adossé au ciment, il contempla le mont Essia et imagina qu'Hannibal avait dû le faire plusieurs fois au cours de son séjour dans cet endroit étrange, tel un campeur en pleine ville. Erlendur retourna à l'intérieur et se mit à creuser dans d'autres directions. Il poussait la lanterne devant lui, avançait sur quelques dizaines de centimètres, creusait un trou, avançait de nouveau, puis creusait un autre trou. Brusquement, le sol lui sembla plus meuble. La pelle s'y enfonça plus facilement. Arrivé à environ 7 mètres de l'ouverture, il perçut une résistance. Ce n'était pas une pierre. La pelle cognait contre cette résistance, mais on n'entendait aucun bruit métallique. Il prit la lampe pour éclairer le trou qu'il venait de creuser. Apparemment, la terre n'avait pas été remuée. Un épais silence l'enveloppait. Il s'accorda un bref répit et observa les parois. La lumière puissante de sa lanterne ne faisait qu'augmenter la densité des ténèbres qui le cernaient de toutes parts. Il continua à creuser, à genoux et à arc-bouté. Sa pelle se retrouva brusquement bloquée. Il sursauta, ramena machinalement sa main vers lui, prit la lampe et vit un morceau de tissu affleuré à la surface. Il laissa l'outil et balaya doucement le périmètre du bout des doigts, dévoilant ce qu'il pensait être le col d'une veste. Il crut repérer une touffe de cheveux, puis s'arrêta sur un objet d'apparence familière. C'était une boucle d'oreille. Il venait de trouver le corps d'Odny. En dégageant la terre, il constata que la nature avait fait son œuvre. Il avait eu le temps d'apercevoir une clavicule et une main avant de renoncer. Pris de nausée, il ignorait combien de temps il pourrait rester là, tant il désirait quitter cet endroit terrifiant et les ténèbres qui l'encerclaient. Alors qu'il s'apprêtait à retourner vers la sortie, son regard tomba sur les doigts crispés qui semblaient serrer un objet, sans doute emprisonné au tout dernier instant. Il s'approcha, souleva doucement la main, libéra l'objet, le prit, le nettoya. Il comprit qu'au moment où il avait commencé à explorer l'inquiétant tombeau d'Odny, il s'était complètement trompé sur l'identité du coupable. Il plaça sa découverte en pleine lumière. Odny n'était pas la seule à avoir perdu un bijou la nuit où elle était morte. L'objet désignait le meurtrier. C'était un bouton de manchette orné de l'insigne du Lions Club.
Il y a aussi un thème très intéressant dans votre roman, c'est que de même que des gens disparaissent, il y a en parallèle l'idée de la disparition d'une Islande traditionnelle.
Oui, tout à fait. Erlendur représente vraiment l'Islande ancienne ou l'Islande traditionnelle. Il est élevé à la campagne, il passe son enfance à la campagne, ensuite il déménage à Reykjavik et il ne se sent jamais bien à Reykjavik.
Silver and white on the bow, as the island is broken away.
Og hann hefur lengi haft áhyggjur af því hvert sem sagt landið stefnir.
Et il s'inquiète beaucoup de la manière dont la nation évolue et surtout dont elle oublie son passé.
The airfield is under the world.
Et voici en conclusion l'épilogue de l'histoire. Après sa macabre découverte, Erlendur confie le dénouement de l'enquête à ses collègues de la criminelle dirigée par le commissaire Marion Brehem. Celui-ci félicite Erlendur et l'invite à le rejoindre dans ses rangs. L'avenir du jeune policier est tout tracé. C'est le début de nouvelles aventures qui feront le bonheur des lecteurs assidus d'Arnaldur Indridason. Voici la rencontre entre le policier et son futur patron le jour des fêtes du millénaire de l'occupation de l'Islande. « Bonjour !» lança une voix fluette derrière lui. Il fit volte-face et découvrit Marion Brehem, qui tout comme lui était revêtue de son uniforme officiel. Erlendur lui serra la main. « Vous devriez passer nous voir à la criminelle si vous avez envie d'un peu de changement, » déclara Marion. « J'ai parcouru les rapports que vous nous avez remis sur Hannibal et Odny. J'ai pu constater que ça ne vous gênait pas d'enfreindre toutes les règles que nous nous imposons au sein de la police. »« Oui, pardonnez-moi, je ne voulais vraiment pas... » commença à plaider Erlendur. Ses supérieurs lui avaient reproché de ne pas avoir contacté la criminelle dès qu'il avait trouvé la boucle d'oreille. Il s'en était fallu de peu qu'il ne perde son emploi. « Non, ne vous excusez pas, cela me plaît beaucoup, » le coupa Marion. « Vous devriez venir me voir si cela vous dit de continuer à fureter comme vous le faites si bien. » Erlendur tira une fois de plus sur son col de chemise en se disant qu'il avait hâte d'avoir terminé sa journée et d'ôté son uniforme. Son répit serait toutefois de courte durée, puisqu'il devait assurer les nuits à Reykjavik toute la semaine suivante.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec Manu Couturier à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Valérie Bourg. Bonne journée et à demain.
Merci Guillaume Gallienne. Demain dimanche entre 12h et 13h et toujours dans le cadre des rediffusions de l'été, demain entre 9h et 10h cette fois-ci, la rédaction de France Inter vous propose la rediffusion d'une émission déjà entendue le 18 octobre 2015. Il s'agit du reportage d'Omar Waman qui a suivi 12 jours et 12 nuits durant une famille de Syriens dans son périple. De la frontière syro-turque en passant par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, ses jeunes parents sont arrivés incrédules à la gare de Vienne en Autriche, point de départ vers une nouvelle vie. Cette famille était pourtant privilégiée en Syrie, ingénieurs tous les deux, mais pour sauver l'avenir de leurs enfants, ils ont bravé le danger, l'épuisement, la peur, en espérant trouver en Europe un Eldorado. Ils font partie de ceux que l'on appelle les migrants. Ils sont victimes des guerres, des dictatures, des cataclysmes ou encore de la misère. À ce jour, ceux qui ont fui l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, l'Érythrée ou encore la Somalie constituent la plus grande vague de migration jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur les 8 premiers mois de l'année 2015, 323 000 ont débarqué sur les côtes européennes. Beaucoup sont morts noyés en Méditerranée à bord des embarcations de fortune. Mais donc, c'est à suivre demain sur France Inter, 12 jours dans la vie d'un réfugié. C'est donc à réentendre aussi, puisque c'est une rediffusion entre 9h10 et 10h. Ce sera juste après le journal Interception.